Bienvenue au Quoi de neuf docteur de la SPLF. Marlène Muris va faire un point en quelques minutes sur l'état des lieux des bronchiectasies en 2018.
Bienvenue à Quoi de neuf docteur de la SPLF. Je suis Marlène Muris, je suis pneumologue au CHU de Toulouse et je vais vous présenter en 5 minutes les nouveautés sur les bronchiectasies. Le jeudi de la SPLF correspondant est disponible en téléchargement sur le site de la SPLF dans la rubrique « Formation ». Grande nouveauté ces dernières années, c'est l'existence désormais d'un registre européen des bronchiectasies qui s'appelle Embarque, auquel s'est associée la France depuis maintenant un an et qui recense les données épidémiologiques en état de base, mais également avec un suivi annuel de patients porteurs de bronchiectasies en Europe, mais Embarque s'étend un petit peu en dehors de l'Europe. L'intérêt de cette énorme base de données, c'est de pouvoir faire des études épidémiologiques et puis également de pouvoir proposer aux patients des projets de recherche clinique qui sont de plus en plus nombreux dans le cadre de la prise en charge des bronchiectasies. Le deuxième grand point, c'est celui de la publication en septembre dernier des premières recommandations européennes sur la prise en charge des bronchiectasies. Il existait des recommandations espagnoles, il existait des recommandations britanniques en 2010, mais il manquait des recommandations consensuelles. L'originalité de cette task force, c'est qu'elle a regroupé des praticiens d'origine variée, qui tous s'intéressaient aux bronchiectasies et qui étaient pneumologues, immunologistes, bactériologistes, mais également kinésithérapeutes et également quelques patients. Ces recommandations n'ont pas pu répondre à toutes les questions qu'on peut se poser dans la prise en charge des bronchiectasies, mais après plusieurs enquêtes auprès des praticiens et auprès des patients, on relevait 9 thématiques qui paraissaient du plus grand intérêt pour leur prise en charge. Les niveaux de preuve ne sont pas encore très élevés, car vous savez que jusqu'à présent, il n'y a pas eu énormément d'études bien conduites méthodologiquement sur la prise en charge des bronchiectasies, mais en tout cas, c'est un premier pas pour aider le praticien et le patient dans la gestion de la pathologie. Donc, ce qui ressort des premières données des registres Embarque et des études épidémiologiques publiées, c'est que les bronchiectasies, c'est une maladie qui n'est pas si rare qu'on le pensait et qu'elle est d'autant plus fréquente qu'on est plus âgé, notamment à partir de 65 ans. C'est une pathologie qui clairement aggrave la qualité de vie des patients parce qu'ils ont une toux chronique, parce qu'ils ont de multiples exacerbations pour certains d'entre eux et qu'ils sont fréquemment hospitalisés. Il a été publié également des scores de gravité qui sont au nombre de 3, qui sont faciles à réaliser face aux patients et qui vont nous permettre de mieux cibler les patients à risque, c'est-à-dire à risque de dégradation respiratoire, à risque d'exacerbation et à risque de mortalité. Il y a 2 grands paramètres qui ressortent, c'est la présence de Pseudomonas aeruginosa et le fait d'être un exacerbateur fréquent, c'est-à-dire avoir recours à une antibiothérapie plus de 3 fois par an pour la prise en charge de ces bronchiectasies. Alors, Pseudomonas aeruginosa est présent chez environ 15% des patients porteurs de bronchiectasies. C'est un facteur de mauvais pronostic et dans les recommandations, il est proposé de tenter d'éradiquer cette bactérie. Les schémas de prise en charge ne sont pas parfaitement codifiés, mais reposent globalement sur une administration parentérale d'antibiotiques et sur la nébulisation d'antibiotiques pendant au moins 3 mois. On sait que ces antibiotiques peuvent être mal tolérés avec environ 10% de bronchospasmes. On sait que l'adhérence aux thérapeutiques inhalées et de l'ordre de 50% dans le cas des bronchiectasies. Néanmoins, traiter les patients et ajouter des nébulisations d'antibiotiques permet d'obtenir une éradication du piocyanique dans 30 à 50% des cas et un retard à la recolonisation. Chez les patients exacerbateurs fréquents, qu'ils aient ou non du piocyanique, c'est également un facteur de mauvais pronostic. On proposera en première intention les macrolides s'il n'y a pas de piocyanique, en prenant soin de faire une recherche de mycobactéries atypiques avant la mise en place du traitement, et un électrocardiogramme, car ces thérapeutiques peuvent allonger le segment QT. Si les patients sont porteurs de piocyanique, on proposera des antibiothérapies en nébulisation, et en cas d'échec d'une stratégie de l'un ou l'autre, en particulier en cas d'échec des nébulisations, on pourra rajouter les macrolides. Pour tous les patients, le drainage bronchique fait partie de la prise en charge initiale du patient et on peut proposer aux patients porteurs de bronchiectasie une réhabilitation respiratoire avec un haut niveau de preuve. Ces dernières années également, le rôle central physiopathologique du polynucléaire neutrophile a été bien démontré et notamment de l'élastase neutrophile qui est clairement un facteur de sévérité de la maladie quand il est isolé en grande quantité dans l'expectoration. Un espoir, c'est celui du dosage de la desmosine circulante, qui est un produit de dégradation de l'élastine, qui pourrait être un facteur de gravité facilement utilisable. Donc peut-être un futur marqueur sérique. Autre point d'intérêt, c'est l'existence de comorbidité. L'existence de comorbidité altère le pronostic des bronchiectasies, et avoir des bronchiectasies sévères augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc en synthèse, pour une prise en charge globale de patients porteurs de bronchiectasie, bien les schémas sont mieux définis grâce à la rédaction de ces nouvelles recommandations en 2017. Il n'empêche qu'on va de plus en plus vers une médecine personnalisée. Il y a néanmoins des fondamentaux qui sont être correctement hydraté pour arriver à se drainer, faire de la rehabilitation respiratoire, être vacciné contre la grippe et contre le pneumocoque. Les bêta-2 mimétiques, les corticoïdes inhalés n'ont pas de place systématique dans la prise en charge des bronchiectasies, sauf asthme ou bronchopathie obstructive chronique associée. On arrive à mieux cibler les indications des antibiotiques inhalés et des macrolides qui sont réservés aux exacerbateurs fréquents avec des antibiotiques inhalés en cas de colonisation apiocyanique. Il est important de suivre sur un plan microbiologique les patients, notamment au niveau bactériologique pour dépister l'apparition d'un piocyanique et tenter de l'éradiquer dès son apparition. On connaît mal encore la présence d'autres pathogènes et la prévalence et leur impact, comme les mycobactéries atypiques, qui sont retrouvées en moyenne à moins de 1% des cas pour l'instant dans les séries. On connaît mal la prévalence de l'aspergillus dans les bronchiectasies. Donc vous voyez qu'il y a encore un certain nombre d'inconnus, inconnus qui devraient s'éclaircir dans les années qui viennent grâce aux études mises en place, notamment via le registre Embarque. Donc ces dernières années, il y a une forte progression dans les essais cliniques publiés et il est probable qu'il y ait des nouveautés thérapeutiques avec des nouvelles molécules, notamment anti-inflammatoires, dans les 5 à 10 ans à venir. Je vous remercie.